الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة، قبل الشروع في الكلام ننبه الأخوات اللاتي هن في القاعة المخصصة أن مكبر الصوت لم يكن شغالا أثناء الصلاة، فقد قمنا بالصلاة فإن لم يصلين فعليهن بذلك. Avant de commencer, on prévient les sœurs qu'on a oublié de mettre le micro pendant la prière, donc peut-être qu'elles n'ont pas entendu la prière. Donc dans ces cas-là, si elles n'ont pas prié, qu'elles prient d'abord. Barakallahu fihin, et puis nous excuse pour le dérangement occasionné. Ikhwani fillah, حياكم الله جميعا وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله الكريم العظيم أن يجمعنا وإياكم في هذه الدنيا دائما على طاعته، وفي الآخرة في أعلى درجات الفردوس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، حديثنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع سورة من سور القرآن نلقي فيها نظرة نتأمل بتلك النظرة كلام الله تبارك وتعالى، نبحث ما يتضمن من فوائد وأسرار، ونسأل الله العلي الغفار أن يجعلنا ممن قرأ القرآن وتأمله وعمل به. إخواني في الله، لا يخفى على أحد أن الغاية التي خلقنا الله تبارك وتعالى لأجلها هي توحيده سبحانه وتعالى، ولأجل تحقيق هذه الغاية أنزل الله تبارك وتعالى الكتب، وأرسل الله جل وعلا الرسل، وقامت سوق الجنة والنار. وآخر رجل اختاره الله تبارك وتعالى للرسالة هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي صلوات ربي وسلامه عليه، فهو آخر الرسل وآخر الأنبياء، ونحن بالتالي آخر الأمم، فهو حظنا من الرسل كما نحن حظه من الأمم. قال الشاعر: ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت لي أحمد وأن صيرت أحمد لي نبيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثته آمن معه رهط قليل، وهم السابقون الأولون من المهاجرين رضوان الله عليهم أجمعين. فهؤلاء الأبرار في بداية البعثة واجهوا من قومهم العنة والمشقة في القيام بطاعة الله تبارك وتعالى، فجاء القرآن يثبت قلوبهم ويملأها صبرا وإيمانا ويقينا كي يثبتوا في طاعة الله كما تثبت الجبال الرواسي. وطرائق القرآن في هذه الوظيفة على ثلاثة أنماط نجدها مرارا وتكرارا في السور المكية. النمط الأول هو إخبار الله تبارك وتعالى هؤلاء الصالحين الأولين من المهاجرين عن قوم صالحين مضوا قبلهم ابتلوا كما ابتلي أولئك القوم. والنمط الثاني هو إخبار الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم عن أعدائه وبالتالي أعداء الرسل والمؤمنين وما عاشوه وذاقوه من العقاب الأليم. والنمط الثالث هو الجزاء الذي وعده الله تبارك وتعالى لأوليائه ألا وهو الوعد بالجنة كي يتشجعوا ويتصابروا على طاعة الله ويثبتوا بالقيام بأوامره وترك نواهيه. فنجد هذه الأنماط الثلاث في عدد هائل من سور القرآن لا سيما السور التي نزلت في العهد المكي. ومن هذه السور نجد سورة اشتملت على هذه الأنماط الثلاث ألا وهي سورة البروج. فإن شاء الله تبارك وتعالى نحاول بإذن الله أن نفسر هذه السورة على وجه ندرك فيه هذه الأنماط وبالتالي تثبت قلوبنا كما ثبتت قلوب الصالحين من قبلنا ويزداد إيماننا كما ازداد إيمان من سابقنا إلى الخير. قال تبارك وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ما نثبت به فؤادك. فهذه القصص التي قصها الله تبارك وتعالى علينا في كتابه الهدف منها ليس فقط إملاء الصحف كلا وحاشا بل الهدف منها التذكير والازدياد من الإيمان وبالتالي من العمل الصالح. Aujourd'hui, inshallah, tabaraka wa ta'ala, nous allons voir ensemble une sourate du Coran. Sachez, d'ailleurs personne n'ignore cela, que la raison, que le but ultime pour lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous a créé est que nous concrétisions son unicité. Tawhid. Que nous lui vouons l'adoration à lui seul et à personne d'autre. Pour cela, Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre les livres. Hein, les livres sacrés. Et a envoyé les messagers. C'est ainsi que le paradis et l'enfer ont trouvé leurs occupants. Le dernier des messagers qui a été envoyé à l'humanité est notre saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est le dernier des messagers et donc ceux qui l'ont suivi sont la dernière des communautés. Il est notre part de la prophétie comme nous sommes sa part des communautés. Le poète il disait, et ce qui me rajoute en fierté et en gloire, à un point où presque j'ai failli marcher sur les étoiles, le fait que tu m'aies entré, tu m'aies inclus dans ta parole mes serviteurs, on s'adresse à Allah Ta'ala, dukhuli tahta qawlika ya ibadi, le fait que tu m'aies inclus dans ta parole ya ibadi, ô mes serviteurs, et que tu aies fait de Ahmed, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mon prophète. C'est une fierté immense. Une fierté sans pareil. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au début de sa mission prophétique, a cru en lui un groupe qui représentait la minorité de son peuple. ce qu'on appelle as-sabiqoun al-awwaloun, les premiers qui ont devancé dans la foi. On les appelle par la suite al-muhajiroun, ceux qui ont émigré. Parce que comme on le sait tous, ils ont émigré de Mecca vers al-Habasha ou al-Madine. Et lorsque, au début de la mission prophétique, les gens qui ont suivi le prophète, alayhi salam, ont été confrontés à une difficulté et une torture de la part de leur peuple. Ils se faisaient persécuter par des insultes ou des fois un refus de la part des mécréants d'avoir avec eux des relations commerciales ou sociales, ou même pire, des punitions physiques, des tortures et des châtiments. Alors, les croyants avaient besoin de quelque chose qui allait raffermir leur cœur dans le chemin qu'ils ont choisi de suivre. Et le Coran, comme on le sait tous, il se divise en deux catégories. Le Coran qu'on appelle de Mecca, le Coran Mekwa, et le Coran Al-Madani, le Coran de Médine. Mais sachez qu'on appelle le Coran de Mecca tout ce qui a été révélé avant l'émigration, la Hijra. Et qu'on appelle le Coran de Médine tout ce qui a été révélé après l'émigration. C'est-à-dire que le verset de Sourate Al-Ma'ida, où Allah Ta'ala dit « Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditum lakum al-Islam adina », ce verset a été révélé à Arafat, l'endroit et le jour, le 9e jour de Dhul-Hijja, la 9e année de l'Hijra. Et pourtant, donc Arafat, c'est dans la province de Mecca, et pourtant ce verset fait partie du Coran, quoi ? Médinois. Donc, quand on regarde dans le Coran de Mecca, c'est-à-dire le Coran qui a été révélé avant la révélation, avant, pardon, l'émigration, on trouve qu'Allah tabaraka wa ta'ala, par le biais de certains versets, raffermit le cœur des croyants qui sont confrontés à des tortures et des difficultés de la part de leur peuple et renforce leur foi de trois façons différentes. La première, Allah tabaraka wa ta'ala informe les croyants dans le Coran des récits des pieux qui les ont précédés et qui ont été eux aussi éprouvés par leur peuple et comment ils ont réagi face à cette épreuve. La seconde, c'est l'information, les récits qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélés dans le Coran, dans lesquels il nous informe comment Allah tabaraka wa ta'ala a puni les ennemis des messagers, des croyants. Comme quoi Allah tabaraka wa ta'ala est capable de tout, et que forcément le secours et la victoire revient à ses alliés qui sont les croyants. Et enfin, dernièrement, la promesse qu'Allah tabaraka wa ta'ala fait aux croyants, qui est le paradis et la récompense ultime, afin qu'ils soient motivés pour être fermes dans leur foi et dans leur pratique religieuse et dans leur obéissance envers Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, quand on lit le Coran qui a été révélé dans la période qui a précédé l'émigration, on trouve ces trois choses-là en général. Et il y a quelques sourates dans le Coran qui réunissent ces trois points en elles-mêmes. Parmi ces sourates-là, sourate Al-Buruj, que je pense vous connaissez tous ici, j'espère. Taïb. Sachez donc, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, par le biais de ses récits, qu'il nous a révélé et qu'il a révélé donc avant nous aux premiers musulmans, c'est pour raffermir leur foi et pour renforcer leur cœur, pour ne pas que au moindre tremblement de terre ils flanchent et abandonnent. Alors dans le Coran il dit wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusul, et toutes les histoires que nous te racontons contenant les informations des prophètes qui t'ont précédé. Ce verset, il est à la fin de Sourate Hud. Sourate Hud est une sourate dans laquelle Allah tabaraka wa ta'ala nous parle avec un détail particulier de certains récits qu'on concernant les prophètes et la rébellion de leur peuple contre eux. Et aussi Allah Ta'ala nous dit et nous explique comment il les a punis et châtiés suite à leur rébellion. Et après tout ça, Allah Ta'ala dit et toutes ces histoires que nous te racontons contenant les informations des prophètes, ma nusabbitu bihi fu'adak, détient ce avec quoi nous raffermissons ton cœur. Donc le Coran, il a pour but de raffermir le cœur et de renforcer la foi. Allah dit dans le Coran, وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Lorsqu'une sourate est révélée, il y en a qui disent, qui parmi vous a vu sa foi augmenter par cette sourate? Quant à ceux qui ont cru, elle n'a fait que rajouter à leur foi et ils se réjouissent les uns les autres. Et quant à ceux qui ont dans leur cœur une maladie, elle n'a fait que rajouter de l'impureté à leur impureté et ils meurent en état de mécréance. Qu'Allah nous en préserve. Alors pose-toi la question, la Harry. Quand tu lis le Coran et quand tu es au courant des histoires qui ont précédé avec des gens qui ont cru et qui ont été persécutés pour leur foi, quel est le résultat sur ton cœur? Est-ce que tu sens ton cœur plus fort? Est-ce que tu sens ta foi plus ferme? Ou bien est-ce que tu ne ressens rien? Al-Hasil, on va voir avec Surat Al-Buruj différentes choses qui, bi'idhnillah, nous permettront d'augmenter notre foi. سورة البروج أخذت عنوانها من الآية الأولى. هذه السورة افتتحها الله تبارك وتعالى بقسم. قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. هذه الآيات الثلاثة أو الثلاث كلها قسم من الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا له أن يقسم بما شاء على ما يشاء، ولكن لا يقسم الله تبارك وتعالى إلا على شيء عظيم. وعظمة المقسم به يدل على عظمة المقسم سبحانه وتعالى. أولا قال والسماء، السماء خلق أو مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى العظيمة. قال تبارك وتعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسواها بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. وخلق السماء أعظم وأكبر من خلق الإنسان. قال سبحانه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. والسماء رفعه الله تبارك وتعالى بلا عمد، فهو سقف هذه الأرض، وله عمار وخزنة وسكان. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لها أن تأط، ما منها ما فيها موضع أربعة أصابع إلا فيها ملك واضع جبهته أو ساجد أو قائم يذكر الله تبارك وتعالى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالسماء خلق عظيم وعظمته تدل على عظمة خالقه سبحانه. ثم قال السماء ذات البروج، ذات يعني صاحبة، والبروج جمع برج أو برج، والبرج في اللغة هو القصر. قال تعالى ولو كنتم في بروج مشيدة، أي في حصن حصين. المفسرين يقولون أن البروج في هذه الآية هي النجوم، والتفصيل هو أن الشمس لما تغرب في كل أيام السنة في مكان مختلف، تنتقل من برج إلى برج آخر، وهذا البرج يعرف في السماء ببعض النجوم، فلذلك سميت النجوم بالبروج، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود. اتفقت كلمة المفسرين على أن هذا اليوم هو يوم القيامة، وعد الله تبارك وتعالى لأوليائه وأوعد لأعدائه أنه سبحانه يجمعهم كلهم في هذا اليوم العظيم. أما المتقون فقال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وأما الكفار والفجار والأشرار فكذلكم أوعد الله تبارك وتعالى أولئك القوم بأنهم جامعهم ليوم لا بيع فيه ولا خلاف، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، لا قبلها، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي كانوا يوعدون. فهذا اليوم يوم موعود، وعد الله تبارك وتعالى أنه يجمع خلقه في هذا اليوم المؤمنين والكفار. وشاهد ومشهود هذا من المجمل أو من المجمل من القرآن غير المفصل، فلذلك اختلفت كلمة المفسرين على وجوه عديدة. فمنهم من قال أن الشاهد صلاة الفجر، سلام، فمنهم من قال أن الشاهد صلاة الفجر، وأن المشهود قراءة القرآن فيه، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومنهم من قال أن الشاهد هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمشهود عليه أمته، قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ومنهم من قال أن الشاهد هو الله تبارك وتعالى والمشهود عليه خلقه، قال تبارك وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. ومنهم من قال أن الشاهد هو الحجر الأسود والمشهود العكس، أن المشهود هو الحجر الأسود، لا، أن الشاهد هو الحجر الأسود والمشهود من استلمه بصدق. وأجمل ما قيل في تعيين هذه الآية ما نقله السعدي رحمه الله عن ابن القيم رحمة الله عليهم أجمعين، أن هذه الآية تشمل كل راء ومرئي، وكل مبصر ومبصر، وكل حاضر ومحظور، يشمل هذا كله، لأنه كما قلنا من المجمل أو من مجمل القرآن غير المفصل، وشاهد ومشهود. ثم من له دراية بقواعد اللغة العربية لا يخفى عليه أنه ما من قسم أو أنه ما من قسم إلا وله جواب، إلا وله جواب. أنت تقول مثلا: والله لا أحفظن القرآن، فقسمك والله، وجواب قسمك لا أحفظن القرآن. وفي هذه الآية ورد إشكال عند المفسرين: أين جواب القسم؟ لعلكم تملون بكثرة كلامي بالعربية، لعل. على كل حال، جواب القسم يعني أحدث إشكالا عند المفسرين في هذه السورة. لماذا؟ لأن قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود على الصحيح إنشائية بمعنى الدعاء والتقدير لعن أصحاب الأخدود ولا يسوغ لمثل هذا التعبير أن يكون جوابا لقسمي فالصحيح أن جواب القسم محذوف تقديره يفهم من السياق وهو ليعذبا أو ليهلكا أو ما أشبه ذلك Ah, je disais avant de traduire, que je vois pas trop de réactions quand je parle en arabe. Et j'aimerais bien arriver à la fin de la sourate avant le Maghreb. À la kulli hal. J'espère que vous ne vous lassez pas quand je parle en arabe. C'est pas le but, hein. Taïb, on commence avec la sourate. Les trois premiers versets sont des serments. C'est Allah tabaraka wa ta'ala, il jure sur certaines de ses créatures. Et sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala jure sur ce qu'il veut dans ses créatures. Mais il ne jure que sur des créatures immenses et grandioses. Et l'immensité de ces créatures sur lesquelles Allah y jure indique l'immensité du Créateur subhanahu wa ta'ala. Première chose, par le ciel, plein d'étoiles, plein de constellations. Le ciel, en arabe on dit as-sama, fa'ida lughawiyya. On a appelé le mot le ciel sama en arabe, ça vient de sumu, du verbe sama yasmu, qui veut dire s'élever. Qui veut dire s'élever. Et si on appelle le ciel en arabe Sama, c'est parce qu'il est au-dessus de nous. Bref, si tu regardes les informations dans les pays arabes qui parlent des rois, ils disent Sumu ou Al-Malik. Al-Malik, Sumu, hein, son altesse, qui est haut. Bref, Allah il jure sur le ciel. Le ciel, Allah tabaraka wa ta'ala, en a fait une créature, hein, est une créature immense et grandiose, dont la création est plus grande que celle des êtres humains. Allah dit dans le Coran, la création des cieux et de la terre est plus grande que la création des gens. Et Allah décrit le ciel dans le Coran en disant que c'est un plafond qui tient sans pilier. Et Allah dit dans le Coran, est-ce que vous, les êtres humains, êtes plus difficiles à créer? Est-ce que vous avez une création plus dure et plus lourde que le ciel? Banaha, il l'a bâti. Rafa'a samkaha, il a élevé son toit. Fasawaha, et il l'a fait droite. Et le ciel, il est immense. Il est très grand. Et pourtant, il a aussi des occupants et des habitants, et des gardiens. Il y a un gardien, il y a des gardiens à la porte de chaque ciel supérieur. Et le prophète nous dit dans le hadith, alayhi salatu wassalam, atta tis-sama. Alors le verbe atta, c'est un verbe qui indique le son qu'un chameau fait lorsqu'il est trop chargé. Hein, prends un chameau. C'est que les Arabes ils prenaient leur chameau et puis ils parcouraient de longues distances dans le désert. Et comme c'était des longues distances, ils les chargeaient beaucoup. Et lorsque le chameau, malgré sa force, était surchargé, il faisait un bruit particulier. Ne me demandez pas de l'imiter, j'y arriverai pas. Et ce bruit-là, on va dire que le ciel, il a fait un bruit comparable à celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un endroit grand comme quatre doigts sans qu'il ne s'y trouve un ange qui pose son front, qui est en prosternation ou bien qui est debout en train d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le ciel, malgré son immensité, il est plein de créatures qui adorent Allah tabaraka wa ta'ala, qui sont les anges. Alayhimu as-salam. Allah il décrit le ciel comme étant constellé. On a encore la traduction, Jel Buruj des constellations. C'est une des interprétations que les savants du tafsir a donné. Mais sachez en arabe que le mot buruj est le pluriel du mot burj. Et le mot burj, ça veut dire le château, un palais. Mais c'est plus un château parce que ça a pour but de protéger ses occupants des assaillants extérieurs. Allah dit dans le Coran, aïnama takoun, où que vous soyez, yudrikkum al maut. La mort vous atteindra, walau kuntum fi burujin mushayyada, même si vous êtes dans un édifice renforcé. Les savants ont dit qu'il y a un lien entre les deux termes, entre la constellation et entre la tour. La tour ou le château ou l'édifice, appelle-le comme tu veux. Ils disent que le soleil, au fur et à mesure de l'année, se couche à des endroits différents. D'accord ? Quand on regarde le coucher du soleil sur l'année, on se rend compte qu'au 1er janvier, il est là, et au 1er juin, il est plus loin. Donc chaque journée où le soleil se couche, on appelle l'endroit où il s'est couché Burj. C'est comme si, après qu'il ait fait sa course dans le ciel, il va se cacher, se reposer dans un édifice qui le protège. Et pour savoir, pour déterminer chacun de ces points où le soleil se couche, on reconnaît ça par rapport à des étoiles dans le ciel. Deuxième, وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ. Et par le jour promis. Là-dessus, les savants du tafsir sont unanimes sur le fait que ce jour-là est le jour du jugement. Est le jour du jugement. Right? Allah Ta'ala a promis que ce jour aurait lieu aux croyants pour qu'ils les récompensent et aux mécréants pour qu'ils les punissent. Donc, Allah Ta'ala est dans une succession de versets où il nous parle de la récompense qui attend les croyants. Il nous dit que les anges les rencontreront de toutes parts. En leur disant, voici votre jour, ce jour-là qu'on vous avait promis. Et pour les mécréants, pareil. Allah les a menacés. On dit le wa'd pour la promesse qui fait référence à la récompense. Et on dit le wa'id, c'est-à-dire la menace, pour faire référence à la punition qui les attend. Et les deux, ce sont une promesse de la part d'Allah. Allah la yukhlifu al-mi'ad, et Allah ne trahit pas sa promesse. Donc pareil, dans une succession de versets, Allah Ta'ala fait référence à la punition qui attend les mécréants. Allah dit après au prophète, فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا. Laisse-les disputer au sujet de ce Coran et s'amuser jusqu'au moment où ils rencontreront ce jour qu'on leur a promis. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ. Il n'y a aucun doute sur le fait que le jour du jugement est un jour terrible. Allah dit dans le Coran, أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمِ الْعَظِيمِ. Ceux-ci ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités pour un jour terrible? Yawmin azim. Yawma yaqumu an-nas li rabbil alamin. Le jour où les gens se dresseront devant le Seigneur des mondes. Troisième verset, wa shahidin wa mashhud. Et par le témoin et le témoigné. Ce verset, mes frères, il fait partie des versets du Coran qui ont été dit de façon globale, sans avoir été détaillés. Dans le Coran, on a ce qu'on appelle du mujmal et du mubayyan. On a ce qu'on appelle du khas, du am, pardon, et du khas. On a du, ce qu'on pourrait dire en français, ce qui est dit en gros, globalement, et des choses qui viennent les déterminer. Exemple, Allah dans le Coran dit « Wa aqimu s-salah » Faites la prière. Est-ce qu'on a un verset dans le Coran où Allah nous dit combien de prières on doit faire par jour et combien de raka'at qu'on pose ces prières et est-ce qu'on doit les faire à voix haute ou à voix basse et ainsi de suite? On n'en a pas. Ça, c'est la sunna qui est venue nous déterminer la globalité de ces versets-là. Ce verset-là, wa shahidin wa mashhud, shahid, c'est celui qui témoigne, wa mashhud, c'est ce qui est témoigné. C'est quelque chose qui a été cité de façon globale sans avoir été déterminé dans le Coran ou dans la Sunna. Et sachez, à titre indicatif, que la première des choses avec laquelle on va interpréter le Coran est le Coran lui-même. فَلَيْسَ هُنَاكَ أَحَدٌ أَعْلَمُ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ مِنَ
الله تبارك وتعالى نفسه. Il n'y a personne plus au courant du sens des versets du Coran, de la parole d'Allah, plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Donc si dans le Coran on a des versets qui s'interprètent eux-mêmes, alors c'est la priorité dans l'interprétation du Coran. Deuxième degré, la sunnah, les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, bien entendu l'authentique. C'est-à-dire que la personne, celui qui connaît le plus le Coran après Allah tabaraka wa ta'ala, est celui sur qui il a été révélé, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après les compagnons radiallahu anhum, car c'est sur eux que le Coran a été révélé, et il a été révélé dans leur langue. Et s'ils n'avaient pas compris un verset, ils nous auraient été rapportés dans les textes. Comme il y a un homme qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah. قال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه في الآخرة فقال عكاشة أحد الرواة بلى وعزة ربنا donc lorsque des versets était révélé et que certains compagnons ne comprenaient pas, alors ils allaient demander au prophète une explication de ce verset. Comme le verset Allah Ta'ala nous informe qu'il ressuscitera les mécréants sur leur visage le jour du jugement. Alors compagnons que le prophète, Ya Rasulallah, comment Allah va ressusciter le kafir sur son visage et lui marcher dessus? Alors le prophète lui a répondu, est-ce que celui qui lui a fait marcher sur ses pieds dans ce bas monde est-il incapable de le faire marcher sur son visage le jour du jugement? Alors, Ukasha, un des rapporteurs du hadith, il a dit, bien sûr qu'il est capable, par la puissance de mon Seigneur. Ce hadith nous prouve quoi? Que si les compagnons n'avaient pas compris un verset, ils demandaient au prophète, alayhi salatu wassalam. Et ce genre de hadith dans la sunna sont très peu. Ce qui prouve qu'en général, à 95%, les hadiths, les versets du Coran étaient compris par les compagnons radiallahu anhum wa ardahum. Donc ceux qui sont les plus amenés, les plus capables, les plus aptes à interpréter le Coran après Allah Ta'ala, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les compagnons radiallahu anhum. Et enfin après eux, les tabi'in, les prédécesseurs, au moins ceux qui ont succédé aux compagnons radiallahu anhum, car ils sont les élèves des compagnons radiallahu anhum. Donc ce verset, comme il n'a pas été détaillé dans le Coran et la Sunna, on regarde chez les paroles des Mufassirin et on trouve de nombreuses interprétations. Il y en a qui disent Al-Shahid, c'est la prière del Fajr. Et Al-Mashhud, c'est la lecture du Coran qu'on a dans cette prière-là. Donc, au Allah, il dit Waqim al-salat al-tarafay al-nahari wa la, les ahadi, wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmouda. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا
أقم الصلاة لدلوك الشمس
إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فلا prière lorsque le soleil est au zénith, lorsque le soleil ne s'est pas encore levé, يعني après qu'il soit couché, et au zénith. Et lire le Coran le matin à l'eau. La lecture du matin témoigne. D'autres qui ont dit, heureusement qu'il y a certains cas qui apprennent le Coran. D'autres qui ont dit, moi je me suis senti seul pendant quelques secondes. D'autres qui ont dit, Al-Shahid, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Mashhud, c'est sa création. Donc Allah dit, قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادًا. Dis, quelle chose est plus grande en témoignage? قُلْ Allah شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. Dis, Allah est le témoin entre nous. D'autres qui ont dit, le témoin, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Et ce qui est témoigné, c'est sa communauté. Alors Allah dit, comment seront-ils lorsque pour chaque communauté on fera venir un témoin? Et on te fera venir toi comme témoin contre eux tous. Allez, le prophète, alayhi salatu wassalam. D'autres qui ont dit que le témoin, c'est la pierre noire, hein, celle qui est dans le coin de la Kaaba. Et que celui qui est témoigné, ce qui est témoigné, c'est celui qui l'a embrassé, ou bien qui l'a salué avec véracité. D'autres qui l'ont dit, le témoin, c'est le jour de Arafat, le 9e jour de Dhul-Hijjah, hein, le jour qui précède Eid al-Adha. D'accord ? Et c'est le pilier fondamental du pèlerinage. Al-Hajj Arafa. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce jour-là, c'est un jour très grand dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala prend à témoin ses anges qu'il pardonne ceux qui assistent à ce jour béni dans ces lieux saints. Et ainsi de suite, de nombreuses paroles. Et une des paroles les plus générales qui a été rapportée d'après les interprètes du Coran, parmi le Cheikh Sa'di, et rapporte cette parole d'après Ibn Qayyim, rahimahumullah, comme quoi ce verset indique, du moins englobe, de façon générale, tout ce qui voit et tout ce qui est vu. Tout ce qui est aperçu, tout ce qui aperçoit et tout ce qui est aperçu. Et tout ce qui est présent et tout ce qui est présenté. Donc par cette interprétation-là, on a réuni toutes les paroles des Mufassirin qu'on vient de citer. Ensuite, pour ceux qui connaissent les règles de la langue arabe, ou du moins une partie, parce qu'il y en a pas mal, on sait que lorsqu'on jure, forcément il y a une réponse à ce sur quoi j'ai juré. Exemple, tu vas jurer, tu vas dire « Wallah, je vais apprendre le Coran ». Donc « Wallah », c'est ce sur quoi tu auras juré. Et « je vais apprendre le Coran », ce sera la réponse à ton serment. Et dans cette sourate, qui est sourate al-Buruj, donc on a des serments différents. Mais quand on regarde dans la sourate en elle-même, on ne trouve pas la réponse à ce serment. Et ça va nous divaguer sur le verset qui suit « Qutila ashab al-Ukhdud ». Qutila ashab al-Ukhdud, son sens, c'est comme si on invoquait Allah. On dit que périssent, mais ils sont déjà morts. Donc le sens, c'est que soient maudits les compagnons défaussés, ou défausses, comme on va le voir après. Et comme c'est une demande à Allah Ta'ala, à ce qu'il maudisse les gens qui ont. Les gens de Urdoud, ça ne peut pas être une réponse au serment. Donc cette réponse-là, elle a été supprimée. Et ce qui est supprimé dans les Arabes, quand ils parlaient, ils aimaient que leurs paroles soient courtes. Khayrul kalami ma qalla wa dalla. La meilleure des paroles est la plus courte, mais la plus indicatrice. Celle qui indique le mieux ce que j'ai en moi-même. Alors des fois, quand des choses étaient claires d'elles-mêmes, ils les enlevaient de leurs paroles. Ce qui est le cas ici. La réponse du serment, elle a été supprimée parce qu'elle, on la comprend en regardant le contexte des versets qui suivent. C'est-à-dire, par le ciel plein de constellations, et par le jour promis, et par le témoin et le témoigné, ils périront. Ils périront et mourront, et connaîtront le même sort que ceux qu'a connu Ashab al-Ukhdud. On parle à qui là, souvenez-vous? On parle aux compagnons, radiallahu anhum. Ceux qui ont accompagné le prophète, alayhi salam, dans la foi, dans la patience, la persévérance et la persécution. Parce que ces gens-là sont en train de subir les châtiments de la part de leurs ennemis. Alors Allah, il leur dit, il leur jure, par des créatures immenses et grandioses, que ceux qui se mettent en obstacle dans leur voie et dans leur chemin, connaîtront le même sort que ceux qui ont précédé, comme Ashab al-Ukhdud. من هم أصحاب الأخدود؟ قال تعالى قتل أصحاب الأخدود. قلنا هذه الآية إنشائية بمعنى الطلب أي بمعنى الدعاء والتقوى المعنى لعن أصحاب الأخدود. والأخدود جمع خد وهي الحفرة العميقة في الأرض. وأصحاب الأخدود أناس مجرمون كافرون من شرار الخلق قاموا ضد المسلمين المؤمنين الذين أعلنوا توحيدهم لله تبارك وتعالى فقاموا ضدهم وحاربوهم وصدوا عن سبيل الله، وصدوهم عن سبيل الله، فقبضوا هؤلاء المؤمنين وحفروا تلكم الحفر الأخاديد الأخدود، وجمعوا الحطب فأملأوا هذه الحفر بهذا الحطب ثم أوقدوه، فاشتعلت نار عظيمة ثم التهبت حتى صارت يعني حطام، ثم هؤلاء الأشرار اجتمعت فيهم أربعة أشياء كل واحدة منها أعظم من التي سبقتها. الأولى الكفر، الأولى الكفر بالله، وكفى بذلك إثما عظيما. الثانية الصد عن سبيل الله. الثالثة تعذيب المؤمنين. والرابعة أنهم باشروا العذاب بأيديهم، أنهم باشروا العذاب بأيديهم. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. المعنى أنهم اجتمعوا حول تلكم الحفر وهم ينظرون إلى المؤمنين يلقون في هذه النار ويتعذبون ويحترقون فيها، وهم يتفكهون بالنظر إليهم وهم يحترقون. بل قيل أنهم هم الذين أخذوا هؤلاء المؤمنين وألقوهم في النار، فقوم هذا القوم من أشد الناس كفرا وعنادا وحربا على المؤمنين أصحاب الأخدود. فكأن الله تبارك وتعالى خلال هذه الآيات التي يخبر فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه في أزمنة بعيدة، مع أن بعض المفسرين قالوا أن الفترة الزمنية التي عاش فيها هؤلاء القوم كانت بين بعثة عيسى عليه السلام وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن هناك دليل صحيح يدل على هذا. فعلى كل حال الصحابة والمؤمنون من بعدهم لما يقرؤون هذه الآية ويتلونها يقولون في أنفسهم نحن قد نتعرض للمشقة وللعنت وللعذاب، إما الحقيقي وإما المعنوي، ونحن لا نصبر، مع أن هؤلاء المؤمنين كان أحدهم على شفا تلكم الحفرة المليئة بالنار ولا يجزع ولا يسخب ولا يمشي القهقرة، بل يبقى ثابتا راسخا بقوة إيمانه، بقوة إيمانه إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى في هذه النار. ونحن نرى في هذا الزمان أناسا في عافية من ذلك كله، في عافية من ذلك كله، بمعنى أنه ليس هناك من يعذبهم لكونهم مؤمنين. فترى الواحد منهم مع انتسابه إلى الإسلام قل يوما أن عقد فيه أنامله بالتسبيح، وترى الآخر ليس على ظهره صوت ولا تحت قدميه نار، ويسمع الأذان تلو الأذان وتتثاقل قدماه بالمشي إلى المسجد، وآخر يسمع القرآن يتلى عليه في اليوم وفي الليل والنهار ولا تتحرك في جسده شعرة وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما هؤلاء الصالحون السواط فوق ظهورهم،
والنار تلتهب من تحت أقدامهم ويرون أصحابهم وإخوانهم يلقون فيها ويحترقون فيها ويذوقون من العذاب والألام ما لا مر عليهم قط ومع هذا تراهم صامدين ثابتين لا يخافون في الله لومة لائم ولا عذاب معذب فأين أنت منهم يا عبد الله؟ أين أنت منهم يا عبد الله؟ أنت في عافية من ذلك كله لا سوط ولا عذاب ولا نار ولا سيف ولا حديد ولا شيء ومع ذلك تجد قلبك ضعيفا حتى لا نصفه بالمرض تجد قلبك وكأن بينك وبينه حائل يمنعك من قراءة القرآن ويمنعك من القيام في الليل ويمنعك من كثرة الصدقات ويمنعك من البر وصلة الأرحام ويمنعك من أشياء كثيرة فما هذا السبب الذي به صرت هكذا سل نفسك يا عبد الله سل نفسك يا عبد الله قبل أن يأتيك أجلك وأنت لا تشعر وأنت عاجز على أن تقدم جواب وكتنو قتل أصحاب الأخدود En traduisant en français, que périssent les gens défaussés. Moi, j'insiste beaucoup sur les traductions qu'on trouve en général dans les livres, que je ne fais pas une critique comme aux traducteurs, parce qu'ils se sont contentés de traduire ces mots en arabe dans les termes les plus courants en français. Right? Mais des fois, il ne faut pas se contenter de lire le verset tel qu'il est dans le Coran. Car on comprend plus le sens du verset quand on a accès au livre de tafsir qui interprète le Coran. Ce qui fait que des fois, on va traduire un verset par rapport à sa forme telle qu'elle est dans le Coran, alors que lorsqu'on comprend le verset à travers le tafsir, on se rend compte qu'il voulait dire autre chose. On dit que périssent les gens des fausses. Ils sont déjà morts. Ils n'ont même pas vécu à la même époque que le prophète alayhi salam. Alors par rapport à ça, certains savants qui disent qu'ils ont vécu entre la venue de Isa et celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là-dessus, il n'y a pas un hadith sahih qui va servir comme preuve. Quoi qu'il en soit, Outila ici, comme il ne veut pas vouloir dire son sens de base, il fait référence à autre chose. Quel est-il ? Al-la'na, la malédiction. Al-la'na en arabe, tardu min rahmatillah. C'est le fait d'être rejeté de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est une phrase, malgré sa forme passive, qui veut dire en fait une demande, qui indique une demande, comme si tu invoquais Allah. C'est comme quand tu entends quelqu'un, il est mort, tu dis « Rahimahullah ». Tu dis « Rahimahullah ». Le mot ici, le verbe, il est au passé. Comment tu sais ? Vous savez, là, ça va « Rahimahou » Non, là, ça a une forme passive, mais qui indique une demande. Vous Donc, que soient maudits les gens de la fosse. Des fosses. Al-Ukhdoud, ce sont des fosses ou bien des fossés. Des énormes trous qu'on va creuser dans le sol. Ces trous-là, pourquoi on les a creusés ? Donc ces gens-là qu'on appelle Ashab al-Ukhdoud sont un peuple qui était des associateurs et des polythéistes. Et qui avait dans le sein de leur peuple, des croyants. Des gens qui croyaient en Allah, tabaraka wa ta'ala. Hein? Eh bien, ces gens-là, ils ont tellement détesté ces personnes pour leur foi, qu'ils leur ont fait une proposition. Soit vous délaissez la foi, ou soit vous allez périr, brûler, dans des fosses qu'on va creuser nous-mêmes, et qu'on va remplir de bois, et qu'on va allumer, et que le feu qui va s'allumer, on va le chauffer, jusqu'à ce qu'il atteigne un degré immense, et vous serez brûlé dedans. C'était ça, la proposition. Et ces gens-là qui avaient la foi,
c'est des gens qui avaient une foi ferme et forte dans leur cœur, à un point où ils ont préféré garder leur foi et mourir dans atroce souffrance. Ces gens-là, ces mécréants, ils ont réuni en eux quatre choses tout aussi graves les unes que les autres. La première, c'est la mécréance. Et en elle-même, elle suffit comme grand péché, car c'est le pire des péchés. La seconde, c'est qu'ils se sont mis en obstacle dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont tenté d'égarer les gens du droit chemin. La troisième, c'est qu'ils ont châtié et puni les croyants pour leur foi. Et la dernière, c'est que ce châtiment, ils l'ont fait eux-mêmes. En général, si tu regardes bien quand tu as un roi ou quand tu as un chef qui décide qu'une personne soit punie, il va désigner des personnes pour qu'ils aillent le punir à sa place. Eux l'ont fait eux-mêmes. C'est nous, on va le faire. Alors ils ont creusé d'immenses fosses très profondes. Ils ont ramassé du bois. Ils l'ont mis dans ces fosses-là. Ils l'ont allumé. Et ils ont alimenté ce feu de façon à ce qu'il atteigne des proportions immenses. Et après, c'est eux-mêmes qui poussaient les croyants dans le feu. Tu crois en ton Dieu ou bien tu crois dans le nôtre? Je crois en mon Dieu. Allez dans le feu. Et ainsi de suite. Et ces croyants-là, comme on l'a dit, ils avaient des fouets sur leur dos. Et ils avaient un feu qui crépitait sous leurs pieds. Et pourtant, ils restaient fermes et solides dans leur foi. Et aujourd'hui, nous sommes complètement préservés de ce type de châtiment. Nous ici, on est complètement préservés de ce type de châtiment. On n'a pas de feu au-dessus du dos. On n'a pas de feu qui brûle en dessous des pieds. Et pourtant, malgré ça, tu vois des gens qui a beaucoup de mal à regrouper ses doigts pour faire du tasbih. Malgré ça, tu vois des gens qui entendent l'adhan l'un après l'autre et dont les pieds s'alourdissent à un point à ce que ça l'empêche d'aller à la mosquée. Tu vois des gens qui entendent le Coran. Je ne dis pas qu'ils lisent parce qu'ils ne lisent pas le Coran. Des gens qui entendent le Coran le jour et la nuit. Mais ça ne bouge même pas en eux un poil. Qu'est-ce qu'on devrait dire si des gens comme ces gens-là, demain se faisaient attraper, et on leur met des coups de fouet, et on les menace de les jeter dans un feu pour qu'ils laissent leur religion? À votre avis, quelle serait leur réponse? À votre avis, est-ce qu'ils tiendraient comme ces croyants de cette histoire-là ont tenu? Que chacun d'entre nous ici se pose la question et que chacun d'entre nous prépare une réponse à cette question. On n'arrive pas des fois, on ne peut pas nier le fait ici que nos cœurs sont faibles. Je ne dis pas malade, par optimisme, je ne dis pas malade. Parce que le prophète nous demande d'être optimiste, alors on est optimiste. Hein? C'est comme si dans le cœur on avait un voile qui se mettait en obstacle entre nous et l'envie de faire du bien. Est-ce que tu lis le Coran? Combien de fois tu le lis par jour? Est-ce que tu pries la nuit? Est-ce que tu es bon envers tes parents, ta famille, tes voisins et tes frères? Est-ce que tu t'es orné avec le bon comportement? Est-ce que tu apprends la science religieuse avec laquelle Allah élèvera tes degrés? Voilà, la faiblesse du cœur, pour ne pas dire la maladie du cœur. Voilà, al-ajib, fi hadhihi al-qissa, qawluhu ta'ala, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. الشيء الوحيد الذي بسببه انتقم الكفار من المؤمنين هو إيمانهم، لم ينتقموا منهم لأنهم غصبوا أموالهم ولا لأنهم هتكوا أعراضهم ولا لأنهم
قتلوهم وسفكوا دماءهم. لا، السبب الوحيد الذي بأجله ذاقوا هذا العذاب الشنيع هو إيمانهم بالله العزيز الحميد، هو إيمانهم بالله العزيز الحميد. وأعجب من ذلك قوله تعالى بعد هذه الآية: الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. فهنا ينبغي للمؤمن الذي يقرأ القرآن أن يتأمل فيما يقرأه، وأن يبحث في المناسبة بين الآيات، وأن لا يكتفي بمجرد القراءة الباردة التي ليس وراءها تفكير ولا تأمل. فهنا الله تبارك وتعالى أخبرنا أن فئة من المؤمنين ذاقوا العذاب الأليم بسبب إيمانهم، وفي مواضع شتى من كتاب الله العظيم يخبرنا الله تبارك وتعالى أنه ينصر عباده. ألا إن نصر الله قريب، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهنا يقول الله تبارك وتعالى: الذي له ملك السماوات والأرض. وهذا الأمر لا يرتاب فيه مسلم، فقد يقول قائل: سبحان الله، إذا كان لله تبارك وتعالى ملك السماوات والأرض، فأين نصرته لعباده المؤمنين ولأوليائه المتقين؟ أين نصرته؟ نصرته تبارك وتعالى قائمة لا محالة، شئت أم أبيت، علمت بذلك أم جهلت، رأيتها أم خفيت عليك. فالله ينصر عباده إما في أيام حياتهم، وإما بعد مماتهم، وإما يوم القيامة برفع قدرهم وبإعلاء مكانتهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأعجب من ذلك، ما زلنا نقرأ القرآن ونتعجب في طيات سوره. يقول تبارك وتعالى بعدها: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. الله أكبر. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بأن صدوهم عن سبيل الله، أو بأن عذبوهم بأنواع العذاب العديدة، أو بأن قتلوهم، ثم قال تعالى: ثم لم يتوبوا. معنى ذلك أنهم لو تابوا مما قاموا به من تعذيب أولياء الله المتقين لقبل الله تبارك وتعالى توبتهم. ثم لم يتوبوا. قال الحسن البصري رحمه الله بعد أن قرأ هذه الآية: ما أحلم الله يقتلون أولياءه ويدعوهم إلى توبته. ما أحلم الله، وما أكرم الله، وما أرحم الله، وما أعظم الله. هؤلاء المجرمون الكافرون يقاتلون أولياءه ويعذبونه ويحرقونه، وهو سبحانه وتعالى يدعوهم إلى أن يتوبوا. ولو تابوا مما قاموا به لغفر الله لهم سيئاتهم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف. وفي الحديث: التوبة تجب ما قبلها. وفي الحديث: وإن كان في صحته نظر، والصحيح أنه ضعيف، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولكن بمجموع الأخبار الواردة في هذا الباب، يعني قد يكون لهذا الخبر أصلا أو أصل. فالتائب شأنه عظيم، إذا قبل الله تبارك وتعالى توبته صار من أحبائه. قال تبارك وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتائب طهر قلبه من أدناس المعاصي، والمتطهر طهر جسده من الأجناس الحسية. ففي هذه الآية جمع الله تبارك وتعالى بين فئتين من الناس يحبهم ويحبون من طهر باطنه وظاهره. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذا هو النمط الثاني مما سبق ذكره في أول الكلمة. قلنا أن الله تبارك وتعالى يثبت قلوب عباده الصالحين بإخبارهم عما ذاقه المجرمون من أليم عقابه سبحانه وتعالى. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. وجهنم كما لا يخفى على أحدكم دار أعدها الله تبارك وتعالى للكفار من خلقه الذين تولوا وأعرضوا عن هذه الوظيفة التي خلقوا لأجلها. جهنم مخلوق يخرج منها يوم القيامة عنق فيه عينان تبصر بهما وأذنان تسمع بهما ولسان ينطق به أو تنطق به تقول وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبمن جعل مع الله إلها آخر وبالمصورين إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يومئذ إنها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد هل من مزيد. واشتكت لا وتحجت النار والجنة فقالت النار لا يدخلني إلا الجبار والمتكبرون وقالت الجنة لا يدخلني إلا الضعفاء والفقراء. فقال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء وقال النار وأنت عذابي أعذب بك من أشاء ولكل منكما ملؤها ولكل منكما ملؤها. فهذا مصير من حارب الله ورسوله وأولياءه المتقين أن له في هذه الحياة الدنيا معيشة ضنكا وأيضا في الآخرة العذاب المقيم الأليم العظيم. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. والحريق اسم من أسماء جهنم كما ورد في الآثار. النار موعد أهل الكفر كلهم طباقها 7 مسودة الحضر جهنم الورض من بعدها حطمة ثم السعير وكل هول في سقر وتحت ذاك جحيم ثم هاوية تهوي بهم أبدا في حر مستعين. فكما للجنة درجات تذهب عليا فللجهنم دركات تذهب سفلى تذهب سفلى الله أعلم بعددها. طيب on continue notre succession dans la sourate, notre lecture. Et on voit comment تبارك وتعالى parle de ceux qui ont été punis et châtiés par les mécréants. Et Allah il nous informe que la seule cause qui a poussé ces ennemis-là à les brûler, à les châtier, c'est parce qu'ils croyaient en Allah Ta'ala, le puissant et le digne de louange. Et ils ne se sont vengés d'eux que parce qu'ils croyaient en Allah, le puissant et le sage. Ils ne sont pas vengés d'eux parce qu'ils ont volé leurs biens, ni parce qu'ils ont attenté à leur honneur, ni parce qu'ils ont fait couler leur sang. Leur seul crime, c'est de croire en Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est encore plus étonnant que cela, le verset qui suit. Ils croyaient en Allah, le puissant, le digne, le louange. Celui qui a la royauté des cieux et de la terre,
Et Allah est témoin de toutes choses. Alors quand tu lis le Coran, il y a un prix. Ne te contente pas de lire le Coran seulement avec une lecture froide. Te contenter de lire. Mais Allah, dans le Coran, dans de nombreux versets, nous pousse à méditer sur le sens de ces versets. Pour quelqu'un qui va lire le Coran, il va lire ce verset après qu'il ait lu cette histoire, il va dire Subhanallah. Allah nous parle de gens croyants qui ont été brûlés pour leur foi. Et dans l'histoire, apparemment, ça s'arrête là. Intahal Amr. Mal. Il mourut. Brûlé. Ensuite, tu lis le verset où Allah dit celui qui détient la royauté des cieux et de la terre. On peut se poser la question. Agis. Aucun croyant ne doute dans le fait qu'Allah Ta'ala est le roi des cieux et de la terre. Et qu'il détient et possède la royauté de toutes choses. Alors, où était son secours envers ses croyants? Sache mon frère qu'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il promet une chose, il ne la trahit jamais. Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Alors, le Coran, il nous promet qu'il vient au secours de ses messagers et des croyants dans ce bas monde et le jour où les témoins seront appelés à comparaître. Sache mon frère qu'Allah ta'ala, il vient à ton secours, même après ta mort. Sache qu'Allah Azza wa Jal, il a secouru des personnes des siècles après leur mort. Il ne les a pas secourus en eux-mêmes. Parce que perdre son corps et perdre sa vie n'est rien en comparaison de ce qu'Allah te donne en échange lorsque tu arrives auprès de lui. Mais il fait que ce sacrifice que tu as fait pour lui donne des fruits dans ta postérité. Donne des fruits que les gens après ta mort cueilleront et se nourriront de ces fruits-là. Nous ici aujourd'hui, on entend toujours Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Ibn Kathir, Ibn Rajab, Al-Zahabi, Al-Baghdadi, Al-Akhir, on entend beaucoup de noms comme ça. On a tendance à croire que ces gens-là, quand de leur vivant, ils avaient des mosquées pleines et remplies. Donc c'est vrai qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a passé de nombreux mois de sa vie en prison, à un point où il est mort en prison tout seul. C'est vrai qu'Ibn Qayyim, Jawziyyah, rahimahullah, une fois il s'est fait emprisonner, on l'a ligoté, mis sur un âne, on l'a fouetté, on l'a fait tourner dans la ville. Vous savez qu'il y a des gens, des grands savants qui ont laissé des ouvrages magnifiques, qui sont morts tout seuls. Tout seuls. Et Allah, il a fait que leur travail, qui était basé sur une sincérité immense, on en profite jusqu'à aujourd'hui. Et tous les jours dans ce bas monde, vous êtes chaque seconde, où il y a quelqu'un parmi les musulmans sur terre qui dit « Rahimahullah, Rahimahullah, Rahimahullah ». Imagine-toi chaque seconde des centaines, voire des milliers de personnes étant avec Allah pour qu'il fasse miséricorde. Si c'est pas un secours, ça c'est quoi? Et en plus, Allah il te dit à la fin, Wallahu ala kulli shay'in shahid. Et Allah il est témoin de toute chose. Ne crois pas que ce qui s'est passé à son insu. Kalla wa hasha, abadan. Allah il est témoin de toute chose. Il voit, il entend et il sait. De la meilleure façon, tout ce qui arrive. Et tout ce qui se passe. Mais Allah Ta'ala, il a une sagesse immense et infinie. Des fois on la comprend, des fois on ne la comprend pas. Pas parce qu'elle est difficile en elle-même, mais à cause de la limitation de notre réflexion. Hikmatun ba'ira, fama tughni al-nudur. Ensuite Allah Ta'ala, il dit ceux qui ont éprouvé les croyants et les croyants, ceux qui les ont châtiés, ceux qui les ont punis, ceux qui les ont détournés, qui ont tenté de les détourner de leur foi. Donc on parle de ces gens-là et de tous ceux qui leur ressemblent. Après Allah Ta'ala dit une chose immense, magnifique, et qui ne se repentent pas. Thumma, yani après cela, lam yatubu, ils ne se sont pas repentis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, malgré l'atrocité du crime qu'ils ont commis, s'ils étaient repentis à Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah leur a accepté leur repentir. Ça c'est azim. C'est très fort. Ça donne une lueur d'espoir aux croyants. Celui qui, lorsqu'il tombe dans le péché, et se voit déjà dans les flammes de l'enfer en train de brûler, et se dit au fond de lui-même qu'Allah ne me pardonnera jamais, Yahri, tu te trompes lourdement. Et sache que quelle que soit la grandeur du péché que tu as fait, eh ben, Allah tabaraka wa ta'ala est plus grand que tout. Allah tabaraka wa ta'ala est plus grand que tout, et sa miséricorde est plus large que tout. Wa rahmati wasi'at kulla shay, Rabbana wasi'at kulla shay, rahmatan wa ilma. Allah il dit, ma miséricorde elle embrasse toutes choses. Et les anges ils disent, Ya Allah, tu as embrassé toutes choses en science et en miséricorde. Quelle que soit la grandeur du péché que tu as fait, et bien la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, son pardon est plus grand que ton péché. Alors reviens vers Allah ta'ala avec un cœur repentant, avec un cœur sincère, avec un cœur qui regrette amèrement le péché qu'il a fait, et Allah ta'ala t'accueillera avec un repentir. Ya Abna Adam, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Au fils d'Adam, si tu viens à moi avec autant de péchés que la terre peut contenir, et que tu viens à moi sans rien m'avoir fait comme association, je t'accueillerai avec autant de pardon que la terre puisse contenir. لا تقنط من رحمة الله. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. Ne désespère de la miséricorde de son Seigneur que les égarés. Et Allah Ta'ala dit, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Dis-leur, Ya Muhammad, à mes serviteurs, ô vous qui avez fait du tort à vous-même en faisant beaucoup de péchés, ne désespérez pas la miséricorde d'Allah. Allah, il pardonne tout. Allah, il pardonne tous les péchés. T'as fait un péché, ya akhi, eh bien, repends-toi à Allah tabaraka wa ta'ala et améliore-toi. Et Allah Ta'ala te pardonnera. Et si jamais tu retournes dans le péché, eh bien repends-toi encore une fois. Et si jamais tu retournes dans le péché, eh bien repends-toi encore une fois. Et tant que tu demanderas à Allah Ta'ala pardon, eh bien Allah te pardonnera. Comme on a dit dans l'Azhar, Anna Iblis, لما أخرج من السماء, قال وعزتك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله تعالى وعزتي وجلالي لا أغفرنهم ما داموا يستغفرون لي. Iblis, La'anahullah, lorsqu'il a été chassé du ciel, il a dit, juré à Allah par ta puissance, je tenterai de les égarer tant que leur âme sera dans leur corps. Alors Allah lui a répondu, par ma puissance, ma majestuosité, je leur pardonnerai tant qu'ils n'appelleront mon pardon. Ceux qui ont châtié, qui ont éprouvé, qui ont tenté les croyants et les croyantes, et qui ne se sont pas repentis, Al-Hassan al-Basri, rahmahullah, il a dit, Allah ta'ala, c'est étonnant à quel point il est doux et miséricordieux. Il combat ses alliés, il les châtie, les punit et les tue, et lui, il les appelle au repentir. Et lui, subhanah, il appelle ces gens-là à se repentir à lui. Et dans de nombreux textes, il a été rapporté que le repentir efface ce qui a précédé. Allah dans le Coran dit à ceux qui ont mécru, s'ils s'arrêtent dans leur mécréance, leur sera pardonné tout ce qui a précédé. Et dans un hadith aussi, qui n'est pas authentique, mais dans le sens, il est appuyé par d'autres hadiths qui le sont, celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a pas de péché. Al-Hassan a dit, deuxième chose, dans les voies qu'Allah Ta'ala emploie pour raffermir la foi des musulmans et pour renforcer leur cœur, c'est de les informer sur le châtiment d'Allah, sur ceux qui se sont mis à l'encontre de ses alliés. Donc ceux qui ont tenté et qui ont éprouvé les croyants et les croyantes, ils auront un châtiment de l'enfer. Falahum adabu jahannam. L'enfer, comme vous le savez tous, est une créature qu'Allah Ta'ala a créée et qui va servir de gîte et de demeure et de destination finale à tous ceux qui ont penché et qui se sont éloignés et égarés de la cause initiale pour laquelle ils ont été créés, c'est-à-dire vouer le culte exclusif à Allah tabaraka wa ta'ala. Tous ceux qui lui ont désobéi et qui ne se sont pas repentis, tous ceux qui ont fait des associations et qui ont été les ennemis de des alliés d'Allah, ils auront comme destination finale et comme punition éternelle l'enfer. Et l'enfer, mes frères, est une créature. Comme dans le hadith du Prophète alayhi salatu wassalam, le jour du jugement, l'enfer sera amené, elle sera tirée par 70 000 brides. Et chaque bride sera tiré par 70 000 anges. Et dans l'autre hadith, on dit que de l'enfer sortira un coup. De ce coup-là, il y aura deux yeux avec lesquels l'enfer regardera. deux oreilles avec lesquelles l'enfer entendra et une bouche avec laquelle l'enfer parlera. L'enfer dira, on m'a chargé de trois types de personnes, des tyrans et de ceux qui ont attribué avec Allah d'autres divinités et de ceux qui représentent les êtres vivants. Lorsque l'enfer verra les gens le jour du jugement, ils l'entendront pousser des cris féroces et vociférer des hurlements atroces. Et Allah dit dans le prophète dans le hadith que l'enfer et le paradis sont pleins, Allah tabaraka wa ta'ala. Le paradis a dit à Allah, n'entrera en moi que les pauvres et les faibles. Et le paradis a dit, l'enfer a dit à Allah, n'entrera en moi que les tyrans et les orgueilleux. Alors Allah a dit au paradis, tu es ma miséricorde, et avec toi je ferai miséricorde à qui je veux. Et il a dit à l'enfer, tu es mon châtiment, et avec toi je châtirai à qui je veux, et chacun d'entre vous sera plein. Et lorsque l'enfer sera plein, Allah Ta'ala lui dira, est-ce que tu es plein? Qu'est-ce que l'enfer répondra? Est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'il y en a encore? L'enfer, il a plusieurs degrés qu'on appelle darakat. Quand les degrés vont de haut vers le bas, on appelle ça darakat. Et quand les degrés vont de bas vers le haut, on appelle ça darajat. Les degrés du paradis, on appelle ça darajat, le jannah. Les degrés de l'enfer, on appelle ça darakat, le nar. Et chaque niveau inférieur est pire que celui qui est au-dessus. Et le plus bas des degrés de l'enfer est réservé aux munafiqin. Inna al-munafiqina fi dharkin asfali min an-nar wa lan tajida lahum nasira. Les hypocrites sont dans le plus bas degré de l'enfer et tu ne retrouveras aucun secours, aucun secoureur. Et le plan, parler sur l'enfer est long, mes frères. Espérons moins que ça. Ça ne nous laisse pas indifférents. Ensuite, ولعل نكمل الكلام بالفرنسية فقط حتى لا نطيل عليكم. On va finir en français parce que si je continue en arabe français, on va trop. الله يجزا خير الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Ceux qui ont cru et qui font des actes pieux. Ils auront des paradis. Jannat. Le mot Jannat en arabe veut dire Al-Bustan Al-Kathir Al-Ashjar. Al-Bustan Al-Kathir Al-Ashjar. C'est-à-dire c'est un jardin dans lequel se trouvent de nombreux arbres. Wa bisababi kathrati arsani tilkum al-ashjar. Wa bisababi kathrati hadhihi al-ashjar. لا بسبب كثرة أغصان تلكم الأشجار وكثرة أوراقها لو قدر أنك تطير فوق هذه أو فوق هذا البستان لما استطعت أن تنظر إلى ما تحتها إلى ما تحتها ففي ما ركب بالجيم والنون دلالة على الخفاء الجنة نفخ on a appelé en français on traduit ça par le jardin. نعم. En arabe, le Jannah est un jardin dans lequel il y a de nombreux arbres touffus, c'est-à-dire qui ont beaucoup de branches, très, où il y a beaucoup de feuilles. À un point où, si on devait passer au-dessus, il nous serait impossible de voir ce qu'il y a en dessous de ces arbres-là, tellement il y a des branches. Et sachez mes frères que chaque mot en arabe qui est composé du djinn et du noun contient en lui-même une indication à quelque chose de dissimulé, de quelque chose de caché. El-Junna, c'est le bouclier et le soldat qui se cache derrière. Rend à son ennemi la tâche impossible à ce qu'il puisse le voir. Al-Janin, le fœtus, il est dans le ventre de la mère, on ne le voit pas comment il est. Al-Jin, le démon, il vit dans le monde de l'invisible, on ne le voit pas non plus. Et là, il y a Al-Jannah, comme on l'a dit. Pourquoi on appelle Al-Jannah comme ça? Parce que jamais personne ne l'a vu des êtres humains ici. À part certains privilégiés comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez dans le hadith, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, بما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم تلا قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فغادي من خير الله يريد le voyage me rapporte après Allah tabaraka wa ta'ala qu'il a dit qu'il a préparé pour ses serviteurs fait dans le paradis ce qu'aucun œil n'a vu aucune oreille n'a entendu, et aucun cœur humain n'a pu imaginer. C'est-à-dire le verset où Allah Ta'ala dit, aucune âme ne sait ce qui lui a été caché comme réjouissance de l'œil, en rétribution en ce qu'ils ont fait comme action, comme bonnes actions. Al-Jannah, avant d'y arriver, il y a un long chemin à faire. Déjà, on vit ici-bas. Une vie plus ou moins difficile. Allah dit, لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ. الْكَبَدْ في أظهر أقوال العلماء العنت والمشقة. On a créé l'être humain dans la difficulté. Le معنى toute sa vie, il traverse des états difficiles. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. Vous allez succéder des étapes après d'autres. هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. C'est celui qui vous a créé de faiblesse. Après il a fait après cette faiblesse, il vous a donné la force. Et après cette force, il vous donnera encore de la faiblesse et de la vieillesse. Vie difficile. Encore plus pour celui qui est loin d'Allah تبارك وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Et celui qui se détourne de mon rappel, il aura une vie pleine de gêne. Une vie pleine de gêne à la Ahadil Qawlay. Une vie, il ne sera jamais mortaire, il ne sera jamais apaisé, même s'il a tout l'argent qu'il veut, même s'il a tout ce qu'il possède, tout ce qu'il veut, il le possède, il ne sera jamais apaisé en lui-même. Amma al-mu'min, comme on dit dans le hadith, al-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ce bas monde, c'est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Allahumma ja'al dunya jannatina. Et Allah fait que ce monde ne soit pas notre paradis. Nous, on veut l'autre, le vrai. Hada yafna wa yazur. Ensuite, il y a la mort. Wa ja'at sakratul mawt bil haqq. Wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam athna'a marad mawtih kana yudkhil asabi'ahu fil ina. ويبلل به وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات إن للموت لسكرات وفي رواية اللهم أعني على سكرات الموت وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه سكرات الموت أشد من ألف ضربة سيف. Déjà tu nais en provoquant une douleur atroce à ta mère. Après, tu vis. Dans cette vie-là, tu vis des moments difficiles. Ensuite, tu vas mourir. Et lorsque tu agonises, tu éprouves des douleurs immenses. Allah il dit dans le Coran, et voilà que les affres de l'agonie arrivent avec la vérité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant de mourir, il trempait ses doigts dans un verre et il se mouillait le visage. Il disait, Ya ilaha illallah. Certes, la mort a des affres, a des tourments. Dans une version du hadith, il demandait à Allah, aide-moi contre les tourments de la mort. Et Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu disait que la souffrance de l'agonie est pire que 1000 coups d'épée. Après, tu meurs. Après, tu vas dans la tombe. Et tu as l'interrogatoire. Soit ça se passe bien, soit ça se passe mal. Après, il y a le jour du jugement, la résurrection. Tu sors de ta tombe, tu es nu, sans vêtements, sans chaussures, incirconcis. Le soleil au-dessus de ta tête, tu sues, tu vois à droite, il y en a qui se fait châtier. Tu vois à gauche, il y en a qui se fait châtier. Tu vois en face de toi, il y en a qui se noient dans la sueur. Et tu restes comme ça combien de temps? Un jour? Non. Deux jours? Non. 50 000 ans. Jusqu'à ce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il arrive et le jugement il commence. Et là, nafsi, c'est le symbole. C'est la devise de ce jour-là, chacun pour soi. Ta mère a dit, oh mon fils, je t'ai enfanté dans la douleur, je t'ai allaité, quitte à me priver. Hein? J'ai passé des nuits blanches à rester à ton chevet, je me suis privé de nourriture pour que tu puisses manger. Lorsque tu sortais le soir et je ne rentrais pas à l'heure sans me prévenir, je me mordais les doigts. Ya waladi zman hasanat, toi c'est ta mère, et tu l'aimes, et tu aimerais l'aider, mais tu lui diras, non. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Le jour où l'homme fuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants. Ensuite, le jugement, il arrive. Et Allah, il t'appelle par ton nom. Où est Adel, fils de Adel? Et tu sais que c'est toi. Il y a des milliards de personnes, mais tu sais que c'est toi. Et les anges arrivent vers toi, et ils te font te lever, et te ramènent devant Allah, tabaraka wa ta'ala. Et Allah, ta'ala, il te juge. Il ramène les balances et il pèse tes actions. Et à ce moment-là, tu oublies toutes choses. Tu oublies tout. Comme Aisha radiallahu anha, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ya Rasulallah, atazkuruna ahlikum yawm al-qiyamah ?» Qala na'am illa fi thalathati mawatin. « Inda tatayur al-suhuf, wa inda wad'i al-a'mal fi al-mizan, wa inda al-ubur fi al-sirat. » Aisha radiallahu anha dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Est-ce que vous souviendrez votre famille le jour du jugement, ya Rasulallah ?» Moi, j'ai dit oui, sur nos trois endroits. Lorsque les livres voleront dans le ciel, avant d'arriver dans leur main, la main droite ou la main gauche, ou derrière le dos. À ce moment-là, tu oublies tout le monde. Deuxième moment, lorsque les actions sont posées dans les plateaux de la balance, tu oublies tout le monde. Est-ce que ça va s'alourdir ou bien est-ce que ça va s'alléger? Troisième moment, lorsque tu passes sur le pont, as-sira. Des épreuves les uns après les autres. Après, tu passes sur le pont, as-sira, qui est aussi fin qu'un cheveu, aussi aiguisé qu'une lame. Il y en a qui passent à la vitesse de la lumière, à la vitesse d'un clin d'œil, à la vitesse de l'éclair, à la vitesse du vent, à la vitesse des chevaux qui sont éduqués pour la course, à la vitesse des chameaux, à la vitesse d'un homme qui court, à la vitesse d'un homme qui marche, à la vitesse d'un homme qui marche à quatre pattes, à la vitesse d'un homme qui rampe. Et à la fin, tu arrives et la porte du paradis, elle est fermée. La porte du paradis, elle est fermée. Mais les croyants, quand ils arrivent et qu'ils passent le sirat, ils regardent derrière eux, ils disent quoi? Alhamdulillah, illadhi adhaba anna al-hazan. Louange à celui qui a fait partir de nous la tristesse. Ensuite, lorsqu'ils verront la porte du paradis fermée, ils diront voir Adam. Ils diront istaftih lana al-jannah. Ils diront laisse tout bidak. Allez voir Nuh. Ils diront voir Nuh. Ils diront non. Allez voir Ibrahim, Moussa, Isa. Jusqu'à ce qu'ils arrivent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah. Demande à ce que la porte du paradis soit ouverte. Alors il ira frapper, il prendra le truc de la porte, là il frappera, et le gardien du paradis dira, qui est-ce? Quand il dira, c'est Mohammed. Alors l'ange dira, on m'a ordonné de n'ouvrir cette porte à personne avant toi. Et la porte du paradis est où? Et la porte du paradis est où? Imagine-toi l'état dans lequel tu te trouveras, après avoir vécu tous ces passages difficiles et ces épreuves immenses, dans quelle félicité et dans quelle joie tu te trouveras lorsque la porte du paradis s'ouvrira vers toi, devant toi. Et lorsque les croyants entreront dans le paradis, qu'est-ce qu'ils diront? Alhamdulillah, illadhi hadana li hada. Oma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Louange à celui qui nous a guidés vers cela. Et nous ne pouvions être guidés si Allah ne nous avait pas guidés auparavant. Ensuite, les gens s'installeront dans le paradis. Chacun en font toutes les bonnes actions. L'entrée au paradis, c'est par la grâce d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Aucun d'entre vous ne rentrera au paradis par ses actions. Les compagnons se sont dit, même toi, ya Rasulallah, elle a dit, même moi, sauf si Allah m'englobe dans sa miséricorde. Donc tu rentres au paradis par la miséricorde d'Allah et par sa grâce. Mais les degrés que tu occuperas dans le paradis seront en fonction des actions que tu as faites dans ce bas monde. Plus tu as fait des bonnes actions et plus tes degrés seront élevés auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le paradis. Hein? Tu auras des degrés plus élevés. Tu pourras intercéder envers plus de personnes de ta famille et de tes connaissances. Et le truc en général, tu motives beaucoup les frères, tu auras plus de hulay. Ah, tu dis, mais c'est ça. Et quand tu parles de la femme, ça y est, ils sont contents. Tu auras plus de femmes au paradis. Et on dit pour les sœurs, comme a dit les ulama, laoula al-haya'u, la wusifa il-nisa'i ma yantadiruhunna fil jannah. Si ce n'était la pudeur, on aurait décrit aux femmes ce qui les attend au paradis. Ma sœur, je sais qu'en général, quand on entend parler de la femme, ça te gratte. Alors, rappelle-toi le hadith du prophète dit alayhi salatu wassalam que tu auras au paradis ce que tu voudras. Et alors, donc, Allah dit لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Ils auront là-bas ce qu'ils voudront. Et auprès de nous, plus encore. Que tu sois un homme ou une femme, tu ne seras pas déçu. C'est Allah Ta'ala qui t'a fait la promesse et Allah ne trahit pas ses promesses. Je dis ça parce que, hein, on entend beaucoup ça malheureusement. C'est normal d'un côté et anormal de l'autre. Et je m'arrêterai là sans rentrer dans les détails. À la kulli hal, al-Jannah, c'est la demeure des croyants. Qu'Allah Ta'ala fasse que vous et moi en fassions, en soyons les habitants. Taïf. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Ils auront des paradis sur lesquels coulent les ruisseaux. Et les ruisseaux au paradis coulent sous trois choses. Ils coulent sous le paradis en lui-même. Ils coulent sous les gens. Hein? إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. Les ruisseaux ils couleront en dessous d'eux. Ou bien en dessous des différents paradis, ou bien en dessous du paradis lui-même. On trouve trois fois dans le Coran. Tajri min tahtiha al-anhar. Le côté dans le paradis a plusieurs degrés. Right? Donc en touchant chacun de ces degrés-là, il y a des ruisseaux qui coulent. Et dans le verset, Allah dit Tajri tahtiha al-anhar. Coule sous elle des ruisseaux. Que sous le paradis, il y a des ruisseaux qui coulent aussi. Et Tajri min tahtihim al-anhar. Que sous les gens, il y a des ruisseaux qui coulent. Du coup, les ruisseaux qui coulent partout. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. Le paradis qui a été préparé pour les pieux a des fleuves qui coulent là-bas. Des fleuves d'une eau pure. Des fleuves d'un lait un liquide dont la saveur ne se perd pas. Un fleuve, des fleuves de vin, qui est un délice pour ceux qui en boivent, et des fleuves de miel épuré. Et ça, Allah il nous démontre, du moins il nous cite ces fleuves-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces fleuves-là au paradis, il y a autre type de fleuve. Allah Ta'ala l'a gardé comme ça, en mystère. Et après Allah Ta'ala dit ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ. Et là, les arabophones que vous êtes tous, qui ont étudié la grammaire et la conjugaison, vont se dire subhanallah. ذَلِكَ, ça fait référence en temps normal à quelque chose de masculin. Bon, ça fait référence à du masculin. D'accord ? ذَلِكَ الْكِتَابُ. Oui. Ici, Zalika, ça revient à Al-Jannah. C'est quoi le féminin de Zalika? Tilka. Masha'Allah. Et ici, Allah dit Zalika. Al-Fawz al-Kabir. Donc, Zalika, ici, il est censé revenir à Al-Jannah. Donc, techniquement, ça aurait dû être Tilka. Mais si Zalika, il a été ramené ici après avoir parlé du paradis. C'est pour nous faire référence à autre chose. À quoi ? Fadlullahi tabaraka wa ta'ala. Comme quoi ? C'est seulement quand Allah Ta'ala t'aura fait grâce et t'aura fait miséricorde que t'auras gagné. C'est là que t'auras gagné. ذلك الفوز الكبير. Wallahi, إن الفائز هو الذي رحمه ربه تبارك وتعالى. الذي رحمه ربه عز وجل وعفى عنه وغفر له وتجاوز عن سيئاته فهو الفائز حقا. فهو الفائز حقا. نعم. Celui à qui Allah il a fait miséricorde, celui à qui Allah il a pardonné ses péchés et l'a touché par sa grâce, Wallah c'est lui le vainqueur. C'est lui le vainqueur. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. البطش أي الأخذ. وقال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. البطش يعني la saisie, la prise. Certes la saisie ou la prise de ton Seigneur est rude, est sévère. Allah dans le Coran dans un verset dit c'est ainsi que ton Seigneur saisit les cités lorsqu'elles sont injustes. Et certes sa saisie est rude et forte. Quand Allah est puni, sa punition, on ne peut pas s'en échapper. On ne peut pas s'en sauver, on ne peut pas en survivre. Y survivre, pardon. Parce qu'Allah est puni. لا مرد لحكمه ولا معقب لقضائه. إن بطش ربك لشديد. Souvenez-vous le contexte. Allah, par ces versets-là, il renforce la foi des croyants et raffermit leur cœur. Il leur dit, je jure par le ciel et ses constellations. Je jure par le jour promis. Je jure par tout ce qui est vu ou bien tout ce qui voit. Que ceux-là de qui je vais parler, Ashab al-Ukhdud, ce qu'ils ont fait, et qu'est-ce qu'ils ont eu à la fin? Eh bien, c'est ce qui attend les gens qui vous font subir les mêmes tourments. Et ensuite, patientez, et vous aurez le paradis sous lequel coulent des ruisseaux. Et vous aurez la réelle victoire. Et à la fin, Allah dit, « Inna batsha rabbika lashadid. » Le châtiment de ton Seigneur, il est énorme. « Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. » C'est lui qui commence, et c'est lui qui recommence. وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده et c'est lui qui commence la création et qui la répète سنه الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا c'est la sunna d'Allah que comme quoi chaque fois qu'il envoie un messager et ben il y a des gens qui vont le suivre et d'autres qui vont les prendre comme ennemis. C'est la sunna d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'il y ait une guerre entre le haq et le batil. C'est la sunna d'Allah tabaraka wa ta'ala de venir au secours de ses alliés et de punir leurs ennemis. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Comme c'est lui qui a commencé, c'est lui qui répète. Et comme auparavant il a secouru ses alliés, et ben vous aussi vous secourrez. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafur al-wadud. قال ابن القيم رحمه الله ما أجمل اقتران هذا الاسم بهذا الاسم فقد يغفر الإنسان أو فقد يغفر الشخص للآخر وهو لا يحبه أما الله تبارك وتعالى فلا يغفر لأحد إلا وهو يحبه ليش؟ الغفور الذي يغفر الذنب والغفران أو المغفرة أصله اللغوي الغين والفاء والراء من المغفر والمغفر هو ما يضعه العسكر فوق رأسه ليتقي من سهام الأعداء فيستر رأسه ويتقيه أو يقيه طيب وكذلك المغفرة هو ستر الذنب والتجاوز عنه الغفور والودود كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري الحبيب وقال العلماء المحب المحب فهو الذي يحب أولياءه وهو الذي يحبه أولياءه سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا إيش أشد حبا لله الله يزيد ensuite وهو الغفور الودود et il est le pardonneur le mot غفور le nom غفور il vient du mot غفران ou bien غفر et le mot qui est composé de ces trois lettres là الغيب والفاء والراء fait référence à ce qui est caché on appelle le casque du soldat المغفر Avec son casque, il cache sa tête et la protège des flèches ou bien des coups des ennemis. Et Al-Ghafour, c'est celui qui pardonne le péché et qui n'y prête plus attention. Tous les gens, des fois, qui te pardonnent après que tu aies fait un mal, mais chaque fois qu'il y a l'occasion, tu te demandes à la fois quand je t'ai fait ça, quand tu m'as dit ça, ah, c'est pardonné, t'as vu, c'est pas mal. Hein? Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, il te pardonne et après ce péché-là, il n'y prête plus attention. والودود الودود من قال ابن عباس رضي الله عنهما nous explique ça dans le hadith que c'est celui qui aime Allah Ta'ala il est celui qui aime et n'aime Allah Ta'ala il aime Allah il aime et il est aimé إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا Ceux qui ont cru et font des actions pieuses, Allah Ta'ala leur donnera de l'amour. Et alors, il dit dans le Coran, oh, vous qui avez cru celui d'entre vous qui se retourne de ses pas, yani qui décroît après qu'il ait eu la foi, Allah le remplacera, remplacera cela par un peuple qui lui, il aimera et eux, ils l'aimeront. Alors donc, Allah dit, parmi les gens, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des associés, qu'ils aiment comme ils aiment Allah. Mais ceux qui ont cru, ils sont plus aimés auprès d'Allah. Allah a hadith tafsir, ou tafsir. Et Ibn Qayyim rahimahullah dit que le fait qu'Allah ait lié ces deux noms, Al-Ghafur ou Al-Wadud, fait partie des plus beaux liens entre les noms qu'on a dans le Coran. Parce qu'il se peut que quelqu'un te pardonne, mais ne t'aime pas. Il pardonne pour une autre raison. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, s'il te pardonne, ça veut dire qu'il t'a aimé. Donc Allah, tabaraka wa ta'ala, il t'a aimé. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. العرش من فرق سلفخون إسلا plus grande des créatures. وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم elle a été créée avant la plume. Et là le trône est le toit du paradis. Et le trône est porté par combien d'anges?
8.
C'est ce que je croyais jusqu'à ce matin. Allah dit dans le Coran, Allah dit dans le Coran, وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ فَوْقَهُ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ فَوْقَهُ
ثمانية.
ثمانية. طيب ثمانية. Et bien vous savez quoi? Ce يومئذٍ ici, les savants vous disent, il n'est pas là pour rien. Et ce jour-là, 8 anges porteront le trône de ton Seigneur. Quel jour? Le jour du jugement. Alors, beaucoup de savants ont divagé sur ce point-là. Et il y a plusieurs hadiths qui ont été rapportés à ce point-là. La plupart, ils sont païfs. Sauf un. Il y en a qui est rapporté par l'imam Ahmed. Et l'imam Cheikh Al-Bani, rahmahullah, il l'a authentifié. Dans ce hadith-là, il a cette technique, donc vous passerez les détails. Il nous dit qu'il y a 4 anges qui portent le trône d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et le jour du jugement, il y aura 8 qui le porteront. Mais attends, dans ce verset, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَ. Où t'as vu c'était des anges qui portaient ثَمَانِيَ تَمَلَائِكَ? Où t'as vu c'était des anges dans le verset? Tu vois qu'il y a des savants qui ont dit 8 rangées d'anges. Ça, après, comme c'est pas détaillé, et qu'il n'y a pas de réalité sûre pour appuyer ça, je vous rappelle ça à titre indicatif. Je ne suis pas en train de dire c'est ça la réponse. Mais il y a des savants parmi les plus prédécesseurs qui ont dit 8 ici, c'est 8 rangées d'anges. À la kulihal. Là, le trône d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il est porté par des anges. Fi dunya arba, wa fi l'akhira taman, ala sahih min aqwali ahli al-ilm. Ici, 4. Et le jour du jugement, 8. Et un hadith authentique, le prophète nous dit, alayhi salatu wa sallam, qu'il y a entre eux le lobe de l'oreille d'un de ses anges et son épaule 700 ans de vol à vol d'oiseau. Entre le lobe de son oreille, Bayna Shahmati Ozunihi, Wakatifihi, Seb Aminati Sana. 700 ans à vol d'oiseau. Le trône, Allah Tabaraka wa Ta'ala, s'est établi et installé au-dessus. Comme il nous a dit dans le Coran, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, wa law kariha al-mu'attiloun, wa al-mubtadi'a min ahli al-zayr wa al-dhalal. Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Allah tabaraka wa ta'ala, il s'est établi au-dessus de son trône. Et le trône n'est pas fait partie des créatures éternelles qui ne périront jamais. Walid Faïda, il y a 8 créatures qui ne périront jamais. Al-Arsh, Al-Qalam, Al-Lawh, Al-Kursi, Al-Jannah, Al-Nar, Al-Ruh, wa Ajabuddana. Répétition. Il y a 8 créatures, Allah il les a créées et jamais elles ne périront. Le trône, l'arche, le kursi c'est le piédestal, l'endroit où Allah Ta'ala il pose ses pieds, subhanahu wa ta'ala. Il n'agit pas des filles, il n'agit pas comme n'importe qui. Là, il s'agit de mettre des choses, Allah est le Samir et le Basir. Rien n'est comme lui, rien. فَمَا دَارَ بِبَالِكَ فَاللَّهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ. Ce qui tourne dans ta tête, eh bien Allah, il est autre que ça. Donc le trône, le piédestal, la plume, اللوح المحفوظ, on va revenir après sur ça. Le paradis, l'enfer, l'âme, et عَجَبُ الذَّنَبُ, il traduit ça par le coccyx. Quand il dit dans le hadith, عليه الصلاة والسلام, كُلُّ بْنِ آدَمَ يَبْلَى إِلَّا عَجَبُ الذَّنَبُ مِنْهُ خُلِقْ وَمِنْهُ يُرَكَّبْ. Tout l'être humain périt sauf le coccyx. C'est la dernière vertèbre de la colonne vertébrale. C'est de là qu'il a été créé, c'est de là qu'il sera créé à nouveau le jour du jugement. L'arche, fihi ash-shakir. Et Allah Ta'ala, dans ce verset, on a deux lectures. Zul arshil majidi, wa zul arshil majidu. Fa'ala al-kafr, fahuwa sifatun lil arsh. Wallahu wasafa al-arsh bil-Qur'an, ثلاثة صفات عرش عظيم وعرش كريم وعرش مجيد وعلى قراءة الضم فهو صفة للرب تبارك وتعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ها وهو ذو العرش المجيد c'est le possesseur du trône majestueux. Majestueux, si pour les grammairiens que vous êtes, il a deux lectures différentes. Une avec une kasra à la fin, Zul Majidi, Zul Arshil Majidi, et s'il y a une kasra, c'est un adjectif qualificatif du trône. Comme quoi le trône, il est majestueux. Les frères, si vous devez aller, excusez-moi, j'ai tardé. Allez-y. Ne partez pas tous, sinon pas tout seul. Zul Arshil Majid. Et Allah, dans le Coran, il décrit le trône de trois attributs différents. Le trône immense, Al-Azim. Le trône Al-Karim, yani, qui a plein de biens, le généreux. Et Al-Majid, le majestueux. Ou à la qira'at al-Dham, et des fois, dans une autre lecture, notamment en Warsh, An-Nafi' et d'autres lectures, on trouve Zul Arshil Majid. Et quand c'est Majid avec la Dhamma, c'est un adjectif qui décrit Allah tabaraka wa ta'ala, qui revient à Huwa au verset précédent. Wa Huwa Mubtada al-Ghafur Tabar ila akhirihi ila al-Qal al-Watal Majidu. Ensuite, fa'alul lima yurid. Celui qui fait ce qu'il veut. Fa'al, yani il fait beaucoup ce qu'il veut. Yani quand c'est fa'al, il fait du kathra. Beaucoup de fois. Et cette action, il la fait dans beaucoup de choses. Dans toute chose. Il n'y a pas une chose qui arrive dans la création sans qu'elle ne soit au préalable voulue par Allah tabaraka wa ta'ala. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمْ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Pour celui parmi vous qui veut être droit, et vous ne le voudrez que si Allah le veut, le Seigneur des mondes. Il y a un homme qui venait voir Abu Bakr radiallahu anhu avant qu'il ne meure. فَقَالَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ هل نراك من طبيب يعالجك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه قد جاءني الطبيب. فقال الرجل السائل فما قالك؟ قال إني فعال لما أريد. آية لم كي أبو بكر رضي الله عنه أبو النغير il était en train d'agoniser, il lui dit que tu veux contrôler un médecin, qu'il peut-être te propose un remède. أبو بكر رضي الله عنه الذي خلاص يدل من المسام. قال أبو بكر يقول كيف تجيء المسام؟ قال أبو بكر الذي il a répondu il m'a dit je fais ce que je veux. فذاك المسام من الله تبارك وتعالى. طيب. من الله تعالى il fait ce qu'il veut. Et lorsqu'il veut une chose, rien ni personne ne peut venir à son encontre. Celui-ci Allah il veut te guider et que toute l'humanité se réunit pour te s'égarer, ils n'y arriveront pas. قُلْ لَا إِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ وَالْ... أحسن بارك الله فيك. قُلْ لَا اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةِ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. si toute l'humanité se réunissait pour te faire un bien, il n'y arriverait que si Allah Ta'ala te l'a écrit. Et s'il se réunissait pour te faire un mal, il n'y arriverait que si Allah Ta'ala te l'a écrit. Rufi'at al-aqlam wa jaffat al-suhuf. Les plumes se sont levées et les pages sont sèches. Fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid. Et le croyant, lorsqu'il lit ce verset, yartah. Il se tranquillise, il s'apaise, il sait que tout ce qui arrive dans ce bas monde, c'est par la volonté d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et il sait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il ne veut pour son serviteur que le bien. Donc même si une chose t'arrive qui est mal en elle-même, sache que forcément il y a un bien pour toi dans cette chose-là. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu lahu khayr, wa ma dhaka illa li mu'min, in asabathu sarra, shakara fa kana khayran lah, wa in asabathu dharra, sabara fa kana khayran lah. Il y a une source d'étonnement dans l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive pour lui est un bien, et ceci n'est que pour le croyant. S'il lui arrive un bien, il remercie, alors ce sera un bien pour lui. Et lorsque votre Seigneur a déclaré que si vous lui remerciez, vous êtes reconnaissant, et bien il vous rajoute. Si t'arrives à bien, tu es reconnaissant, Allah, c'est un bien pour toi. Parce qu'Allah, il va te rajouter en plus. Et si t'arrives à mal et tu patientes, c'est un bien pour toi, parce qu'Allah, il va te récompenser pour cette patience, il va te donner plus encore. إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Certes, la récompense des patients sera attribuée, donnée pleinement sans compte. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ. Est-ce que le récit des armées est parvenu? Les armées sont parvenues. فِرْعَوْنُ وَثَمُودُ. فِرْعَوْنُ, parce que c'est un des plus près de l'époque des Arabes, qui ont côtoyé le prophète, alayhi wa sallam. Et Thamoud était une tribu yéménite, donc arabe, dont les histoires sont arrivées même aux polythéistes de la péninsule arabique. Donc Allah, il leur a dit, « Hal ataka hadithul junud, fir'aoun wa Thamoud. » Il leur a parlé avec des choses qu'ils connaissent. « Wa hakadha yalbaghi lita'i an yaf'al, an yukhatib al-nasa bima yafhamounahu wa bima ya'rifouna. » Et c'est comme ça que le prêcheur, comme ça, celui qui prêche, il doit faire. Il doit s'adresser aux gens avec des choses qu'ils connaissent. Mais il ne parle pas des choses qu'il ne connaît pas. Tu ne peux pas l'avoir comme ça. Parle-lui avec des choses qu'il connaît. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا تحدث قوما بحديث لا يبلغه عقولهم إلا وكان لبعضهم فتنة. Lorsque tu t'adresseras à un peuple avec une parole qui n'arrive pas à leur raison, ce sera pour certains d'entre eux une tentation, une épreuve. Une parole de Ali رضي الله عنه sur la base de ce qu'il dit, est-ce que vous aimeriez qu'on démente Allah et son messager? Et des fois, tu vois ça, tu vas parler avec des gens, tu leur dis des hadiths, des versets, mais ils ne comprennent pas. Après, ils vont dire quoi? Tu dis n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est pas des hadiths. Parce que tu leur parles des versets, des hadiths qui ne sont pas encore aptes à comprendre. Vas-y doucement. Fir'aouna wa Thamoud. Balil ladina kafaru fi takdib, wallahu min waraihim muhit. Les mécréants sont dans une perpétuelle négation. Des négateurs affirmés. Chaque fois qu'on leur ramène la vérité, ils la repoussent et s'en éloignent. Mais Allah Ta'ala, il est derrière eux, informé et savant de ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Donc ne t'inquiète pas. Même s'ils se réunissent, même s'ils font des ruses et des stratèges pour tomber sur toi, ne t'inquiète pas. إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ الْأُرْوَيْدًا. Ils font des ruses et moi aussi je fais des ruses. C'est Allah qui parle, Tabaraka wa Ta'ala. Alors laisse-leur un temps, alors désintéresse-toi des mécréants, je leur laisse un temps. Ne t'inquiète pas. Allah tabaraka wa ta'ala t'a promis qu'il mènera à ton secours. Alors accroche-toi et sois ferme. Bal huwa Qur'anun Majid. Bal huwa Qur'anun Majid. Bal huwa Qur'anun Majid. C'est un Coran majestueux. C'est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ça fait 1430 ans que le Coran est récité dans les minbars, dans les mihrabs, sur les minbars, dans les mosquées, chez les gens. Et les gens ne s'en lassent jamais. Les gens qui ont le cœur vivant lorsqu'ils écoutent le Coran, leur poil augmente, leur peau est frémisse et leurs cheveux se dressent. Leurs larmes coulent et leur cœur bat. Ils ne s'en lasseront jamais. C'est la parole d'Allah. C'est le lien d'Allah le plus solide. Celui qui s'y accroche, il est bien guidé. Et celui qui le délaisse, il sera égaré. Pour Al-Majid, Allah Ta'ala, à la fin de cette sourate du Coran, il fait les éloges du Coran. Et c'est le miracle éternel de cette communauté. Un livre qui, malgré les siècles qui passent sur lui, chaque fois qu'on le lit, on dirait qu'il est nouveau et qu'il est encore plus beau que la dernière lecture qu'on a faite de lui. Fi lawhi mahfouz, dans les tables protégées, les tables qui sont près d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans lesquelles il a inscrit, il a fait inscrire la destinée de toutes les créations. Mahfouz, ils sont protégés par les anges, parce que ce sont des anges qui sont chargés de cela. إِنَّهُ لَقُرْآنُ الْكَرِيمُ فِي كِتَابٍ مَكْنُونَ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَرُونَ. C'est un Coran saint dans un livre protégé, ne le touche que les purifiés, c'est-à-dire les anges. Il est protégé par les anges et il est protégé à ce qu'il soit touché par la modification, l'altération et le changement. وَبِهَذَا نَخْتِمُ الْمَطَافِ فِي هَذِهِ السُّورَةِ الْكَرِيمَةِ. C'est ainsi que nous concluons cette promenade, cette sourate bénie. Et on se rend compte à quel point Allah tabaraka wa ta'ala console, raffermit et encourage les croyants en fonction des situations qu'ils rencontrent. Alors, il y a marqué, quelles que soient les épreuves que tu rencontreras, dans le Coran, il y a une réponse à ton problème. Il faut juste que tu saches lire entre les lignes. Et le Coran, avec un cœur sincère, et demande à Allah Ta'ala de te guider et de t'aider. Et lorsque tu as un problème par rapport à ce que tu prends, il revient en savant. Et tu comprendras, tôt ou tard, que c'est vraiment, vraiment la parole d'Allah. Pourquoi je dis ça? Parce que nous, des fois, en tant que francophone, je m'arrêterai là-dessus, promis. On nous dit quoi? Le Coran, c'est un miracle. Les Arabes de l'époque, ils n'ont rien compris. C'est un défi. Allah, il a défié l'humanité à ramener un verset, une sourate équivalent. Mais toi, ton francophone, tu fais le Coran. Si tu vas lire en français, tu ne vas pas trop comprendre. Et même si tu sais lire l'arabe, tu vas lire en arabe, tu ne vas pas trop comprendre non plus. Et même si tu as un peu de science en arabe, tu ne vas pas trop comprendre comment on est arrivé à ce point-là. Et wallah, il est vrai. Wallah, il tourne à wallah. Quand on lit des livres, des grands savants qui nous expliquent le Coran, on a l'impression qu'on ne lit pas le même livre. On a l'impression qu'on ne lit pas le même livre. Dernièrement, il y a un frère, Jazakallahu khair, il m'a fait un khair azim, il m'a offert un livre d'Ibn Qayyim, qui s'appelle Al-Tibyan fi Aymani al-Qur'an. C'est un livre dans lequel Ibn Qayyim, rahimahullah, il interprète les sourates dans lesquelles Allah y jure. Et il fait le lien entre les serments et ce qui s'y court après. Voilà, ce livre-là, je ne savais pas qu'il existait à la base. Je l'ai eu dans les mains, j'ai commencé à lire. Subhanallah. Voilà, mais les frères, je vous dis ça sans vouloir. Mais je me suis surpris à lire 60 pages en 10 minutes. Chaque fois que je lisais une page, je me prenais des claques. Mais c'est pas possible. Pourtant, on a lu un peu Ibn Kathir, on a lu un peu le tafsir de Cheikh Sa'di. Mais wallah, ce tafsir-là, et les frères, wallah, il est impressionnant. Ibn Qayyim, rahimahullah, c'était vraiment un savant illustre et un imam immense à qui Allah il a donné une clairvoyance vraiment, vraiment particulière. Et je conseille aux frères qui ont la possibilité de lire en arabe de prendre ce livre-là et d'en faire son livre de chevet. Parce que Allah, ce livre-là nous permet de comprendre le lien qui est entre les versets de certaines sourates et Allah, il fait monter la foi. Et celui qui comprend le Coran, il n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme les autres. Et c'est une ni'ma azim, c'est un bienfait immense de comprendre le Coran. Alors demande à Allah de t'ouvrir les yeux du cœur. Demande-lui de t'aider à apprendre ta science et ta religion jusqu'au jour où tu pourras toi aussi arriver à ce degré-là. Et là tu comprendras pourquoi Allah Ta'ala dit dans le Coran « Inna alladhina utul ilma min qabli, idha yusla alayhim, yakhirruna lil adhqani sujjada, wa yakuluna subhana rabbina, in kana wa'adu rabbina la maf'ula, wa yakhirruna lil adhqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. » Tu comprendras pourquoi Allah dit dans le Coran, les gens de science avant cela, lorsqu'on leur lit le Coran, ils plongent sur leur menton en prosternation. Et ils disent que la gloire soit faite à notre Seigneur. Certes, sa promesse va s'accomplir. Et il plonge en prosternation, en pleurant. Et leur recueillement ne cesse d'augmenter. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yaj'alana min ahli al-Qur'an الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك الله فيكم وعفوا على الإطالة، وجزاكم الله خيرا.